Histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Bonjour chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui Pascal Daillé-Burgeon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire, spécialiste éminent de la Corée, pays auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages, mais c'est pour un autre empire que vous venez aujourd'hui participer à cette émission, Byzance la secrète. Car effectivement, vous êtes intéressé par le monde byzantin qui a déjà servi de cadre à un roman historique, La Relique impériale. Cette Byzance la secrète que vous avez publiée aux éditions Perrin, qui est vendue 21 euros, est une sorte de précis, mais extrêmement intelligent, extrêmement bien conçu, très plaisant à lire et qui définitivement prouvera au lecteur que Byzance ne fut pas ce monde compliqué, cruel et sans intérêt que l'on s'imagine parfois. L'histoire de Byzance commence tôt avec une prophétie, dit la légende, faite par la Pythie à un navigateur grec, Byzas, en quête d'un endroit où installer un comptoir sur la mer de Marmara. Quelle est cette prophétie ?
Eh bien, comme on en trouve beaucoup dans les fondations de cités grecques, l'idée qu'il y a un endroit idéal pour établir une nouvelle cité, une colonie, et qu'en fait, seuls les aveugles ne la voient pas, en fait, et que pendant tout un temps, les Grecs se sont établis tout autour de l'endroit idéal sans le voir, et qu'en fait, finalement, Byzas l'a vu, le véritable endroit, l'endroit où se trouve maintenant Istanbul ou Constantinople, et qui est effectivement le mieux desservi, le mieux situé. Et la prophétie dit qu'au fond, il faut avoir une sorte d'éclair divin pour comprendre où véritablement établir la ville. Ce qui veut dire que depuis le début, cette ville est bénie des dieux.
Tu t'installeras en face des aveugles, ceux qui n'ont pas compris. Il n'est pas besoin d'être un spécialiste de géostratégie pour saisir l'emplacement idéal occupé par cette colonie grecque et son intérêt militaire et commercial sur les détroits. Pourtant, jusqu'au IVe siècle, ni les Grecs, ni Alexandre, ni l'Orient, ni Rome ne prennent conscience apparemment de ce prodigieux potentiel. Il faut attendre Constantin qui va rebaptiser la ville Constantinople. Pouvez-vous nous parler de cette véritable refondation et de ses conséquences ?
Eh bien, au fond, Rome est un pouvoir occidental qui s'est surtout intéressé à la partie occidentale de la Méditerranée. Alexandre, lui, s'intéressait plutôt à l'Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient presque. Et au fond, Constantin fait un peu la synthèse entre les deux. La domination du monde, c'est la domination de l'ensemble de la Méditerranée. Et donc, une capitale qui est exactement à cheval entre l'Occident et l'Orient est le moyen de faire cette jonction qui n'a pas été opérée jusque-là. Et Constantin crée une ville idéale, parfaite, moderne, nouvelle pour l'avenir, qui est la synthèse de l'Occident et de l'Orient et qui ne peut baptiser évidemment que Nouvelle Rome, puisque Rome est la ville de référence, bien entendu, pour les Romains, que le site de l'ancienne Rome n'est plus défendable, n'est plus tenable, et donc il faut en quelque sorte déplacer Rome. Et véritablement, la ville qu'il crée, c'est à la fois la nouvelle Rome et l'ancienne Rome en même temps. On déplace tout, la plupart des monuments qui sont transportables, des colonnes, même parfois des temples entiers, sont déplacés jusqu'à la ville qu'il crée et que la population rebaptise la ville de Constantin, mais dont le nom officiel était Nouvelle Rome et qui est resté donc Constantinople jusqu'au XXe siècle.
Il va d'ailleurs attirer le Sénat, les autorités politiques. Il va avoir des cadeaux royaux pour inciter les gens à venir s'installer dans la nouvelle ville. Et les ambitions de cette nouvelle capitale sont gigantesques.
Ah oui, vraiment, c'est non seulement la nouvelle Rome, mais en plus peut-être un peu la nouvelle Alexandrie, la nouvelle Athènes. Bref, toutes les villes qui ont marqué l'histoire des empires d'après Alexandre et l'Empire romain sont toutes résumées, synthétisées dans la ville que crée Constantin, qui en outre a adopté une nouvelle religion, même s'il ne s'est pas converti lui-même, si ce n'est le jour de sa mort, le christianisme. Donc il faut aussi que ce soit la nouvelle Jérusalem. Donc en fait, Constantinople, c'est la synthèse de toutes les villes. Donc c'est la ville idéale, la ville parfaite, la ville de l'avenir. Et effectivement, elle a duré 1000 ans.
Aux yeux de la postérité, Constantinople appartient à l'Orient hellénistique, mais paradoxalement, et même s'ils parlent grec, les Byzantins, eux, se considèrent comme romains, voire comme les seuls ou les derniers des Romains.
Tout à fait, ils se sont toujours appelés romains, puisqu'ils sont les héritiers légitimes de l'Empire romain, et même en utilisant la langue grecque, ils continuent à s'appeler Romaioi, et l'on peut voir dans toutes les mosaïques à Sainte-Sophie qui nous restent représentant des empereurs, qu'en grec, ils se font appeler Basileus des Romains, et qu'ils appellent parfois l'Empire la Romanie. Et c'est même comme ça que les croisés les appellent. Et pire, enfin, ou plus étonnant encore, c'est comme ça que tous les peuples arabes appellent les Occidentaux, les Roms, les Roumis, les habitants de Rome, c'est-à-dire en fait les habitants de l'Empire dirigé par Constantinople. Donc qui jusqu'à la fin est considéré comme Rome, du moins ses habitants se considèrent comme les Romains, et tous les autres ne sont pas des Romains, ce sont des étrangers, des Gaulois, des Francs, des Allemands, mais pas des Romains. Ils sont les vrais Romains.
La chute de Rome aux mains des Visigoths en 410, puis la disparition de l'Empire d'Occident, qui s'effrite au profit de royaumes barbares, va d'ailleurs conforter les Basileïs dans la certitude de leur légitimité impériale. Pourriez-vous évoquer quelques-unes de ces figures du pouvoir impérial, les empereurs illyriens, Zénon ou surtout Justinien ?
Oui, Justinien, en fait, qui nous est connu parce que des fresques absolument, des mosaïques, pardon, merveilleuses existent de lui et de son épouse, la grande Théodora, dans la basilique de Ravenne. Donc on voit quel était son aspect, on peut l'imaginer, impérieux, dominateur. Et c'est au fond le dernier des empereurs romains. Il parle grec, mais il publie des ordonnances et surtout un gigantesque code de loi en latin, donc il est encore le dernier des empereurs romains, et d'ailleurs il reconquiert la plus grande partie de l'Occident, l'Italie, une bonne part de l'Espagne, seule la Gaule lui échappe, donc en gros au VIe siècle il reconstitue l'Empire romain, donc c'est un empereur absolument remarquable et qui a régné fort longtemps et connu aussi par son épouse. Et puis un autre empereur, c'est Héraclius, peut-être moins connu, contemporain de Mahomet, et qui lui a essayer de lutter avec difficulté contre la montée de l'islam, dont il n'a pas perçu la puissance, mais qui a complètement détruit l'Empire perse et qui a, au fond, stabilisé Constantinople comme capitale d'un empire d'Orient pendant plusieurs siècles, en fait. Donc, il y a de très grands empereurs, certains connus, d'autres moins, sans doute à cause des représentations qui nous en restent, et qu'il est extrêmement intéressant de connaître.
Pourtant, l'histoire byzantine apparaît souvent comme une longue suite de coups d'État, parfois accompagnés de véritable massacre dynastique, le cas de l'empereur Maurice et de ses fils par exemple, oui, qui sont assassinés dans des conditions atroces. Certains empereurs, à l'instar d'Andronique Ier, se révèlent des personnages proprement épouvantables. Les guerres, les sièges, les menaces ne cessent pratiquement jamais dans l'histoire de Constantinople. À quoi tient dans ces conditions la survie de l'Empire et du régime ?
D'abord, ce que vous dites est tout à fait exact, mais en même temps, c'est une analyse qu'on a faite au XVIIIe siècle, et Voltaire en est un des grands responsables, pour dénoncer, au fond, l'absolutisme, considérant Byzance comme l'empire absolu par définition, et en fait, Voltaire servait d'autre cause, la lutte contre l'absolutisme à l'époque de la monarchie française finissante. Et donc, à la suite, beaucoup d'auteurs ont noirci Byzance en faisant l'incarnation de l'horreur, alors que si l'on compare les drames qui se produisent à la cour de Byzance, à d'autres qui se produisent à la cour de France, à la cour d'Allemagne, à la cour de Naples ou à la cour de Russie, c'est à peu près, au fond, la même chose dans les monarchies, et celle d'Angleterre pendant la guerre de Deux Roses. Dans les monarchies absolues, les familles ont tendance à s'entretuer de manière atroce pour la conquête du pouvoir. Donc certes, il y a eu des violences à Byzance, mais il y en a eu ailleurs. Quant à la guerre, effectivement, Byzance est en guerre en permanence parce que, et au sud, et à l'est, et à l'ouest, on l'attaque, mais ce sont souvent des guerres défensives. Et Byzance a surtout pratiqué, à vrai dire, la corruption plutôt que la guerre véritable. Avec les Russes, par exemple, lorsque les Russes ont envahi l'Empire, eh bien, on les a achetés pour qu'ils se retirent. Et c'est évidemment très mal vu aussi au XVIIIe siècle, au finissant, à l'époque, au fond, de la Révolution et de Napoléon, qui considère que la gloire, c'est la guerre. Ne pas faire la guerre, c'est d'être lâche. Et donc, l'Empire byzantin a surtout une mauvaise réputation. Si on la compare à ses contemporains, finalement, ce n'est pas très différent.
Pourtant, les armées byzantines existent, elles ne sont pas mauvaises. Ils possèdent cette arme mystérieuse pour l'époque qu'on appelle le feu grégeois, le feu grec. Autrement dit, il pourrait aussi bien combattre qu'utiliser la corruption.
Oui, mais c'est aussi un empire commercial qui a très bien compris que bah, sa richesse et sa puissance, et au fond, en payant les Russes pour qu'ils se retirent, eh bien, les Russes n'ont pas d'autre choix que de dépenser l'argent du tribut qu'ils ont reçu à Constantinople en commandant des bijoux et des fourrures. Et donc, en fait, les Russes sont devenus byzantins, du moins de culture byzantine et orthodoxe, grâce, au fond, à la corruption que Byzance a pratiquée à leur égard. Donc, en fait, c'est une manière aussi de byzantiniser le monde, si je puis dire, que de ne pas systématiquement faire la guerre.
Ce qui aboutit d'ailleurs à la conversion du tsar Vladimir à la Russie orthodoxe, qui se revendiquera comme la troisième Rome d'ailleurs.
Absolument, l'Empire russe, et je dis bien l'Empire russe, peut-être du tsar Nicolas II à l'époque de Staline, et peut-être même maintenant, c'est un empire orthodoxe et qui, en quelque sorte, se considère comme un des successeurs de Byzance. Et d'une certaine manière, la protection que M. Poutine veut exercer sur la Turquie rappelle d'anciens souvenirs les rapports entre les tsars et les empereurs byzantins.
Vous dites, rappeliez tout à l'heure, Pascal Daillé-Burgeon, que Héraclius, malgré ses conquêtes triomphales, sa reprise de Jérusalem sur les Perses, n'a pas compris d'où venait la véritable menace pour l'avenir, c'est-à-dire l'islam. Est-ce que, justement, cette conquête musulmane qui déferle sur une partie de l'Empire byzantin ne va pas avoir pour conséquence indirecte ce que l'on a appelé la crise des images, l'iconoclasme qui tournera à la véritable guerre civile ?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Au fond, l'islam est iconoclaste. C'est une religion qui refuse ou qui a rapidement refusé la représentation des images humaines et bien entendu celle du prophète. Et cet iconoclasme dépasse véritablement les religions elles-mêmes. C'est une tendance orientale qui touche le christianisme et qui conduit l'Empire byzantin à être marqué par une épouvantable crise de type religieux. Ceux qui veulent détruire les images, c'est-à-dire les icônes, les représentations, les fresques, les mosaïques, et qui l'ont fait d'ailleurs. Toutes les mosaïques ont été grattées à Sainte-Sophie, celles que nous admirons maintenant ont été reconstruites après la crise iconoclaste, et puis ceux au contraire qui continuent à servir les icônes, qu'on appelle les esclaves des icônes, les iconodules, et qui considèrent plutôt que l'image est une représentation mystique du divin. Et 150 ans de crise religieuse cache aussi, bien entendu, une mutation politique, des crises économiques et un repli, au fond, de l'Empire byzantin qui, au départ, avait une vocation universelle vers un empire national centré sur la mer Égée, au fond, comprenant l'actuelle Grèce, Turquie, les pays danubiens. C'est ça, la crise iconoclaste, c'est une crise religieuse qui cache une crise politique et une crise sociale.
La réalité, il suffit de regarder une carte de l'Empire byzantin au fil des siècles pour le comprendre, c'est que celui-ci se retrouve amputé de la plupart de ses territoires, comme vous le disiez, réduit à peu près au territoire de la Turquie actuelle et à la Grèce. C'est dans ce contexte que vont commencer les croisades. Or, les rapports entre Européens et Byzantins, pleins de mépris les uns envers les autres, deviennent très vite mauvais.
Ah, on peut le dire, oui, il y a aux alentours du 10e, 11e siècle, une rupture fondamentale qui tient d'ailleurs par impact de l'islam à la baisse des échanges. Au fond, sous l'Antiquité, on passe de l'Orient à l'Occident très facilement. Ensuite, ces contacts cessent, deviennent extrêmement rares. Lorsque Charlemagne décide d'envoyer une ambassade à Haroun al-Rachid à Bagdad, il a le plus grand mal à trouver quelqu'un qui soit capable de se rendre d'Aix-la-Chapelle à Bagdad parce qu'il n'y a plus de contact. Et donc, quand il n'y a plus de contact, il n'y a plus de connaissances et tout change. La langue a changé. Les Byzantins ont adopté le grec et abandonné le latin, mais la religiosité a changé. La manière d'aborder le divin est beaucoup plus mystique en Orient qu'elle ne l'est en Occident. Et progressivement, rupture culturelle, rupture linguistique, rupture religieuse, et on conduit à avoir en définitive bien deux mondes totalement fermés l'un à l'autre. Et lorsque l'Occident, à cause d'une explosion démographique, c'est une des raisons, il y a des raisons religieuses bien sûr aussi, décide d'aller délivrer le tombeau du Christ ou, si on préfère, coloniser le Proche-Orient, eh bien Byzance n'est plus un ami, c'est un ennemi, c'est quelqu'un de trop différent pour être compréhensible. Et d'incompréhension en incompréhension, on en arrive à ce que les croisés prennent d'assaut l'Empire l'Empire byzantin et Constantinople et s'en empare en 1204. Au fond, l'Empire byzantin est tombé en 1204 et non pas en 1453.
C'est un événement d'ailleurs à la fois improbable et scandaleux. Pascal Daillé-Burgeon, cette émission se termine. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Byzance la secrète, paru aux éditions Perrin. Un ouvrage que je recommande parce que je ne connais pas de meilleure façon d'aborder l'histoire byzantine avec intelligence, avec précision et avec agrément, car c'est un livre très plaisant à lire. Merci infiniment.
Mais c'est moi qui vous remercie, madame.
Vous pourrez écouter la suite de cet entretien la semaine prochaine à la même heure sur les ondes de Radio Fidélité.